la social-démocratie face au dépassement du capitalisme et de l'État-nation. La social-démocratie au XXe siècle a toujours été internationaliste dans ses principes, mais elle l'a été beaucoup moins dans sa pratique politique. Au fond, cette critique adressée en 1951 par Hannah Arendt aux sociaux-démocrates de la première moitié du XXe siècle pourrait être étendue à leurs successeurs de la période 1950-2020. Les mouvements sociaux-démocrates ont poursuivi depuis 1950 la construction de l'État fiscal et social dans le cadre étroit de l'État-nation, avec des succès incontestables, mais sans véritablement chercher à développer des formes politiques fédérales ou transnationales nouvelles, à l'image des constructions coloniales, bolcheviques ou nazies, analysées par Arendt, mais dans une version sociale, démocratique et égalitaire. Faute d'avoir su ancrer la solidarité et la fiscalité à l'échelon post-national, comme l'illustre l'absence emblématique de tout impôt commun et de politique sociale commune en Europe, la social-démocratie a contribué à fragiliser les constructions développées au niveau national et à mettre en péril sa base sociale et politique. À l'échelon européen, les divers mouvements sociaux-démocrates et socialistes ont certes soutenu avec constance les efforts accomplis pour développer la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, en 1952, puis la Communauté économique européenne, CEE, établie par le traité de Rome en 1957, et enfin l'Union européenne, UE, qui a succédé à la CEE en 1992. Cette série d'accords politiques, économiques et commerciaux, consolidés de traité en traité, a permis d'ouvrir une ère de paix et de prospérité sans précédent en Europe, notamment grâce à une coopération visant à réguler dans un premier temps les conditions de la concurrence sur les principales productions industrielles et agricoles. Le contraste est saisissant entre les années 1920, où les troupes françaises occupaient la Ruhr pour obtenir le paiement d'une dette tribu égale à 300% du produit intérieur brut allemand, et les années 1950, où la France, l'Allemagne, l'Italie et les trois pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, coordonnent leur niveau de production de charbon et d'acier afin de stabiliser les prix et d'assurer une reconstruction aussi harmonieuse que possible. À partir de l'acte unique de 1986, qui établit le principe de la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes dans l'espace européen, les quatre libertés, et du traité de Maastricht de 1992, qui met en place non seulement l'Union européenne, mais également la monnaie unique pour les pays qui le souhaitent, l'euro devenant effectif en 1999 pour les banques et en 2002 pour les particuliers, les institutions européennes ont été de plus en plus sollicitées par les États membres pour négocier les accords commerciaux entre l'Europe et le reste du monde, dans un contexte d'ouverture économique internationale accélérée. Des historiens ont parlé avec justesse de la construction européenne des années 1950-2000 comme d'une opération de sauvetage de l'État-nation, forme politique qui paraissait à beaucoup condamnée en 1945-1950. De fait, la CEE puis l'UE ont permis aux vieux États-nations européens de coordonner leur production et leurs échanges entre eux, puis avec le reste du monde, tout en restant au cœur du jeu politique. Malgré ces succès, la construction européenne souffre de multiples limitations qui menacent l'ensemble d'un possible rejet populaire en ce début de XXIe siècle, comme l'illustre le référendum sur le Brexit en 2016. Au cours des dernières décennies, un sentiment diffus selon lequel l'Europe, mot qui en est venu à désigner la construction européenne bruxelloise elle-même, fonctionnerait au détriment des classes populaires et moyennes et bénéficierait principalement aux plus favorisés et aux grandes entreprises s'est progressivement répandu. Cet euroscepticisme s'est également nourri de l'hostilité face aux nouvelles réalités migratoires et d'un certain sentiment européen de déclassement post-colonial ou post-communiste suivant les pays. Il reste que les gouvernements européens n'ont pas su faire face au mélange de montée des inégalités et d'abaissement de la croissance à l'œuvre depuis les années 1980-1990. Cet échec retentissant s'explique notamment par le fait que l'Europe s'est appuyée presque exclusivement sur un modèle de développement fondé sur la mise en concurrence des territoires et des personnes, au bénéfice des groupes perçus comme les plus mobiles et par l'incapacité des États membres à adopter le moindre impôt ou la moindre politique sociale en commun. Cette incapacité résulte elle-même du choix de la règle de l'unanimité en matière fiscale, choix qui a été reconduit de traité en traité depuis les années 1950 jusqu'à nos jours. Il suffit d'un État, par exemple le Luxembourg ou l'Irlande, pour bloquer tout projet fiscal commun. Telle qu'elle s'est déroulée jusqu'à présent, la construction européenne repose pour une large part sur l'hypothèse selon laquelle la libre concurrence et la libre circulation des biens et des capitaux suffisent à apporter la prospérité collective et l'harmonie sociale, et sur la conviction que les bénéfices de la concurrence fiscale entre États, en particulier pour empêcher ces derniers de trop grossir ou de sombrer dans des lubies redistributives sans fin, l'emportent sur les coûts. Ces hypothèses ne sont pas totalement indéfendables d'un point de vue théorique. En particulier, la construction d'une puissance publique légitime pour prélever l'impôt dans une communauté de grande taille n'a rien d'anodin ou d'évident, surtout à l'échelle de l'Europe. Elles n'en sont pas moins relativement fragiles, surtout au vu des évolutions inégalitaires des dernières décennies et des dangers qu'elles entraînent, et compte tenu du fait que des communautés de taille comparable ou supérieure ont réussi depuis des décennies à adopter des impôts communs et partagés au niveau fédéral, le tout dans un cadre démocratique, par exemple aux États-Unis ou en Inde. Le fait que l'intégration européenne s'est appuyée à partir des années 1950 sur une stratégie de construction d'un marché commun peut également s'expliquer par l'histoire des décennies précédentes. Dans l'entre-deux-guerres, la montée du protectionnisme et les stratégies mercantilistes non coopératives avaient contribué à accroître la crise. À sa façon, l'idéologie concurrentialiste est une réponse aux crises du passé. Ce faisant, la construction européenne a oublié une autre leçon de l'histoire, la dérive inégalitaire sans fin des années 1815-1914, qui démontre le besoin d'un encastrement social et fiscal du marché. Il est particulièrement frappant de constater que la social-démocratie européenne, et notamment les socialistes français et les sociaux-démocrates allemands, bien qu'ils aient été régulièrement au pouvoir, parfois même de façon concomitante, et en situation de réécrire les traités existants, n'ont jamais véritablement formulé de propositions précises permettant de remplacer la règle de l'unanimité en matière fiscale. Sans doute n'étaient-ils eux-mêmes pas entièrement convaincus que les complications réelles de l'impôt commun en valaient la peine. La question de la construction d'une forme fédérale adéquate et adaptée à l'Europe et à ses vieux États-nations est certes tout sauf évidente. Il reste que de multiples solutions institutionnelles auraient pu permettre d'adopter des impôts communs dans une fédération démocratique européenne, perspective qui était déjà envisagée en 1938-1940 lors des débats autour du mouvement Federal Union et qui pourrait rapidement devenir une réalité dans les années et décennies à venir. Toujours est-il que la règle de l'unanimité et la concurrence fiscale entre États européens ont conduit le continent dans un mouvement de dumping fiscal accéléré au cours de la période 1990-2020, en particulier concernant l'impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux était d'environ 45-50% dans la plupart des pays dans les années 1980 et s'est graduellement abaissé à tout juste 22% en moyenne dans l'Union européenne en 2018, tout cela dans un contexte où le taux global de prélèvements obligatoires est resté stable et sans garantie que ce processus de baisse tendancielle de l'imposition des profits des entreprises soit arrivé à son terme. Les taux pourraient s'abaisser jusqu'à 0%. Voire se transformer en subvention pour attirer les investissements, comme cela est souvent déjà le cas. Le fait que ce soit les États européens qui ont pourtant le plus besoin de ces recettes pour financer leur État social, qui ont joué un rôle de leader mondial dans la compétition à la baisse sur l'impôt sur les sociétés, bien davantage que les États-Unis d'Amérique, où cet impôt est prélevé au niveau fédéral, tout comme l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les successions, témoigne de l'importance des effets de concurrence fiscale tout autant que du rôle central des institutions politiques et électorales. Le fait que la construction européenne s'est surtout illustrée par sa défense des principes de la concurrence libre et non faussée et a été généralement perçue comme une force hostile ou indifférente au développement de l'État social explique aussi pourquoi les travaillistes britanniques étaient partagés dans leur soutien à l'Europe lors du référendum de 1972, comme d'ailleurs lors de celui de 2016, sans toutefois proposer entre ces deux dates de projets visant véritablement à lui donner un autre contenu. Repenser la mondialisation et la libéralisation des flux de capitaux. Des travaux ont également montré le rôle central joué par les sociaux-démocrates européens et singulièrement par les socialistes français dans le mouvement de libéralisation des flux de capitaux qui se met en place en Europe, puis dans le monde, à partir de la fin des années 1980. Échaudé par les difficultés rencontrées avec les nationalisations de 1981, le plan de relance à contre-temps de 1981-1982 et le contrôle des changes de 1983 qui aurait affecté les classes moyennes sans réduire les fuites de capitaux des plus riches, les socialistes français décident à partir de 1984-1985 de changer radicalement de stratégie économique et politique. Dans la foulée de l'acte unique européen de 1986, ils accèdent aux demandes des chrétiens-démocrates allemands visant à une libéralisation complète des flux de capitaux, qui se matérialise dans une directive européenne de 1988, retranscrite dans le traité de Maastricht de 1992, et dont les termes seront ensuite repris par l'OCDE et le FMI et serviront de nouveaux standards internationaux. D'après les témoignages recueillis, ces concessions aux demandes allemandes, qui visaient quant à elles à garantir une dépolitisation complète des questions monétaires et financières, étaient perçues comme une condition acceptable pour l'obtention de la monnaie unique et d'une souveraineté fédérale partagée sur la future Banque Centrale Européenne, BCE. De fait, la BCE est devenue la seule institution européenne véritablement fédérale. Le représentant allemand ne peut s'opposer à la majorité du conseil d'administration, pas plus que le représentant français. Et nous verrons que cela lui a permis de jouer un rôle non négligeable à la suite de la crise de 2008. Pour autant, il n'est pas sûr que les acteurs de l'époque aient pleinement perçu les conséquences à long terme d'une libéralisation absolue des flux de capitaux. Le problème ne concerne pas seulement le cas des flux de court terme. La « hot money » dénoncée par Roosevelt en 1936, dont on avait vu l'impact déstabilisant dans les années 1930, en particulier lors de la crise bancaire autrichienne de 1931, et qui, non sans raison, avait été encadrée entre 1945 et 1985, avant que leur excessive libéralisation contribue d'ailleurs à la crise asiatique de 1997. Plus généralement, la libéralisation des flux de capitaux pose problème dès lors qu'elle ne s'accompagne pas d'accords internationaux permettant des échanges automatiques d'informations sur l'identité des détenteurs de capitaux et la mise en place d'une politique coordonnée et équilibrée de régulation et de taxation adéquate des profits, revenus et actifs concernés. Le problème est précisément que la libre circulation des biens et des capitaux qui s'est mise en place à l'échelle mondiale à partir des années 1980, sous influence à la fois états-unienne et européenne, a été pensée indépendamment de tout objectif fiscal et social, comme si la mondialisation pouvait se passer de recettes fiscales, d'investissements éducatifs, de règles sociales et environnementales. L'hypothèse implicite semble avoir été que chaque État-nation doit régler ses menus problèmes tout seul et que les traités internationaux ont pour unique fonction d'organiser la libre circulation et d'empêcher les États d'y attenter. Comme souvent avec les bifurcations historiques de cette nature, le plus frappant est le sentiment d'impréparation et d'improvisation. On notera également au passage que le mouvement de libéralisation économique et financière observé depuis les années 1980-1990 ne saurait être entièrement attribué à la révolution conservatrice anglo-saxonne. Les influences françaises et allemandes ont également joué un rôle central dans ce cheminement complexe. Le rôle de multiples lobbies financiers issus des différents pays européens, comme le Luxembourg, auxquels les partis politiques et organisations collectives n'ont pas su s'opposer efficacement, doit également être souligné. Il faut aussi souligner que cette incapacité de la social-démocratie de l'après-guerre à organiser l'État social et fiscal à l'échelle post-nationale n'est pas propre à l'Europe et se retrouve sur tous les continents. Les tentatives d'union régionale développées en Amérique latine, en Afrique ou au Moyen-Orient ont également buté sur des difficultés considérables. Nous avons vu comment les dirigeants d'Afrique de l'Ouest, conscients en 1945-1960 des difficultés auxquelles de minuscules États-nations allaient devoir faire face pour trouver leur place et développer un modèle social viable au sein du capitalisme mondial, avaient tenté sans succès de développer des formes fédérales originales, en particulier avec la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal, le Dahomey, la Haute-Volta et l'actuel Mali. L'éphémère République arabe unie, créée entre 1958 et 1961 par l'union de l'Égypte et de la Syrie, et brièvement du Yémen, témoigne également de la prise de conscience qu'une communauté humaine de grande taille est nécessaire pour réguler les forces économiques et capitalistiques. Dans cette trame, le cas de l'Union européenne joue naturellement un rôle particulier, compte tenu notamment de la richesse de ses protagonistes, de la sophistication de la construction européenne et de l'effet d'entraînement que sa trajectoire peut impliquer. Par ailleurs, l'ampleur prise par l'État fiscal et social européen, avec environ 40-50% du revenu national en prélèvements obligatoires, suivant les pays dans les années 1990-2020, implique que la question de la justice fiscale et du consentement à l'impôt joue un rôle crucial. Or, ce consentement est mis à rude épreuve, à la fois du fait de la complexité et du manque de transparence des systèmes fiscaux en question, qui sont souvent le fruit de strates successives et qui n'ont pas été réformées et rationalisées autant qu'ils auraient pu l'être, et de la concurrence fiscale exacerbée et du manque de coordination entre États, ce qui tend à favoriser les groupes sociaux qui sont déjà les premiers à bénéficier de la mondialisation des échanges. De ce point de vue, il faut rappeler que la concentration de la propriété et des revenus du capital, même si elle est moins extrême qu'à la belle époque, 1880-1914, demeure très élevée à la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, et en particulier beaucoup plus élevée que celle des revenus du travail. Cela implique qu'une grande partie des plus hauts revenus sont composés de revenus du patrimoine et en particulier de dividendes et intérêts issus du capital financier. Voir graphique 11.16 et 11.17. En France, en 2015, comme dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, les revenus bas se composent majoritairement des revenus du travail et leur patrimoine est principalement composé de liquidités et de dépôts bancaires. Les revenus moyens sont aussi composés majoritairement de revenus du travail, mais leur patrimoine se compose principalement d'actifs immobiliers. Quant aux plus hauts revenus, ils se composent surtout de revenus du capital et leur patrimoine est principalement composé d'actifs financiers. Ainsi que l'on observe la composition des revenus ou la composition du patrimoine, les inégalités sont fortes dans les deux cas, mais les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. En ce qui concerne les revenus du capital, les 50% des revenus les plus bas représentent à peine 5% du total en France en 2015, contre 66% pour les 10% les plus élevés. Voir graphique 11.18. Pour ce qui est des revenus du travail, les 50% des revenus les plus bas regroupent 24% du total, soit presque autant que les 27% allant aux 10% les plus élevés, qui sont certes 5 fois moins nombreux. Il faut également souligner que la très forte concentration de la propriété et des revenus qui en sont issus n'est pas un biais lié au profil par âge de la richesse. Elle se retrouve au sein de chaque groupe d'âge, parmi les plus jeunes, aussi bien que parmi les plus âgés. Autrement dit, la propriété ne se diffuse que très légèrement avec l'âge. Compte tenu de cette très forte concentration de la propriété, notamment financière, on voit à quel point la libéralisation des flux de capitaux, sans échange d'informations et sans coordination fiscale, peut conduire à miner la progressivité d'ensemble du système fiscal. Outre la course-poursuite à la baisse sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de nombreux pays européens ont ainsi développé au cours des années 1990-2020 divers régimes dérogatoires permettant aux dividendes et aux intérêts d'échapper au barème progressif de l'impôt sur le revenu et donc à acquitter des impôts plus faibles qu'un revenu salarial équivalent, ce qui constitue un changement radical de perspective par rapport aux périodes précédentes. Lors de la création de l'impôt progressif sur le revenu au début du XXe siècle, le premier objectif était d'imposer les plus hauts revenus du capital, et il existait dans la plupart des pays des régimes préférentiels en faveur des revenus du travail. De fait, Si l'on cherche à calculer le profil global des prélèvements obligatoires, on constate que la progressivité a beaucoup diminué depuis les années 1980-1990. Ceci est la conséquence mécanique du fait que le taux moyen de prélèvement est resté stable, alors que les taux appliqués aux plus hauts revenus déclinaient, facteur général qui a été aggravé par le développement de régimes dérogatoires. En France, le taux global de prélèvements obligatoires est actuellement d'environ 45-50% au niveau des 50% les plus pauvres, avant de monter autour de 50-55% au sein des 40% suivants, puis de redescendre vers 45% parmi les 1% les plus riches. Voir graphique 11.19. Autrement dit, l'impôt est légèrement progressif entre le bas et le milieu de la distribution, mais il est régressif au sommet. Cela provient de l'importance des impôts indirects, TVA, taxes sur l'énergie, etc., et des cotisations sociales pour les plus pauvres, auxquelles s'ajoute l'impôt progressif sur les revenus pour les classes moyennes et moyennes supérieures. Pour les plus riches, le poids de l'impôt progressif ne suffit pas à compenser la baisse des taxes indirectes et des cotisations. Ce qui s'explique notamment par les multiples exonérations dont bénéficient les revenus du capital. La régressivité au sommet serait beaucoup plus marquée si l'on examinait l'évolution des impôts payés en fonction de la position dans la répartition des patrimoines et non des revenus, ou bien si l'on combinait la répartition du revenu et du patrimoine, ce qui serait sans doute le plus justifié. Il faut également souligner que toutes ces estimations ne prennent pas en compte l'optimisation fiscale et l'utilisation des paradis fiscaux par les plus riches, ce qui conduit là aussi à sous-estimer l'ampleur de la régressivité au sommet. Le fait que les classes populaires et moyennes acquittent des impôts significatifs n'est certes pas un problème en soi. À partir du moment où l'on souhaite financer un haut niveau de dépenses sociales et d'investissements éducatifs, il est inévitable que tout le monde soit mis à contribution. Mais pour que le consentement à l'impôt se maintienne, il est indispensable que le système fiscal soit transparent et juste. Si les classes populaires et moyennes ont l'impression qu'elles sont davantage mises à contribution que les plus riches, alors il existe un risque évident que le consentement fiscal et le contrat social qui fondent les sociétés sociales démocrates se délitent progressivement. En ce sens, l'incapacité de ces dernières à dépasser l'État-nation et à promouvoir des formes transnationales de justice fiscale constitue la principale fragilité qui les mine de l'intérieur.